J'aimerais bien que nous évoquions une figure à qui vous attachez un certain nombre de pages et qui est très surprenante de cette fameuse Margaret Marcus, juive new-yorkaise, devenue Mariam Jamileh, et donc qui s'est convertie à l'islam, qui est allée vivre justement dans ce Pakistan que vous n'aimez pas, auprès d'un des ténors, des théoriciens de l'intégrisme, Maududi, qui est devenu une de ses disciples les plus proches. Quelque part, il a joué pour elle le rôle d'un gourou, pour nous dire. Et qui va devenir féroce dans le discours intégriste. Elle va l'alimenter d'une manière très très forte.
Non seulement féroce dans le discours intégriste, mais sous la plume de Madame Margaret Marcus ou Mariam Jamileh, nous allons avoir des descriptions mais affolantes de l'attitude de l'islam à l'égard des peuples du livre. Par exemple, Mariam Jamileh, et les intégristes musulmans l'ont confirmé par la suite, pensent que le jihad doit être appliqué aussi bien au peuple du livre, ce qui a l'air d'être une sorte d'aberration théologique.
Il n'y a même pas, c'est régressif par rapport même au statut de la dimitude.
De la dimitude, oui. Alors donc et c'est ce qu'il y a de nouveau dans ce discours de Mariam Jamileh. Alors au départ, quand ceux qui connaissent, ceux qui s'attachent ou qui s'attardent à ce personnage, on peut dire oh ça va, c'est une convertie et comme et c'est un phénomène assez récurrent chez les convertis.
Des néophytes,
exactement, qui deviennent plus catholiques que le pape. Mais finalement, quand on voit son discours, quand on le compare à celui de Maududi sur la question, mais surtout à celui de Saïd Qutb, on voit en fait que Mariam Jamileh, dans un langage très simple, elle a dit ce que les intégristes ont déclaré de façon nette, bien argumentée, à savoir que les intégristes ont offert aussi une nouvelle vision de l'islam, du judaïsme dans l'islam, qui est c'est ce que j'essayais d'expliquer dans ce livre, c'est que tous ceux qui croient que l'intégrisme d'aujourd'hui c'est finalement une sorte de retour à un islam ancien se trompe. C'est un nouvel islam. C'est un nouvel islam aussi bien dans ses rapports à la réalité que dans sa vision...
À son propre dogme.
À son propre dogme, que dans sa vision des juifs, dans sa vision des non-musulmans. Et on peut dire autant d'ailleurs de l'intégrisme juif. L'intégrisme de Gush Emunim, l'israélien...
Vous en parlez longuement dans votre...
Oui, n'a rien à voir avec le judaïsme traditionnel. C'est un autre judaïsme qu'ils ont développé, un judaïsme plus nationaliste, un judaïsme plus orthodoxe. Et c'est cet intégrisme-là, cette vision intégrisme de la réalité que j'ai trouvé chez Madame Jamileh.
Ce qui nous éloigne totalement de l'époque justement de Ranava et de Abdou, qui justement il voulait signaler, même lui il cherchait à signaler l'islamité des valeurs politiques et sociales apportées par l'Europe, comme la notion de liberté, comme la notion de progrès, comme la notion d'égalité, et il déclarait sans choquer à l'époque que l'Europe c'est l'islam sans musulmans et l'Orient ce sont des musulmans sans islam. C'est-à-dire que dans l'idée de Mohamed Abdou, la civilisation est une, elle était musulmane, elle est devenue européenne. Exactement. En somme. Et si on veut retrouver le temps de la civilisation de l'islam, il faut donc se conjoindre à l'Europe. Tandis que dans le texte de Maududi, comme de
Saïd Qutb et les autres,
Saïd Qutb, comme Mariam Jamileh, tous sont... il y a une haine de l'Occident très...
Une haine et une coupure nette.
De la même... les moindres mœurs, la vie au quotidien.
Mais là, il y a la haine de l'Occident, mais...
Elle avait des problèmes dans son propre vécu.
Oui,
elle se sentait déclassée à New York.
Elle a subi...
Quel milieu vient-elle?
C'est un milieu bourgeois juif de New York, qui est d'ailleurs... elle est arrivée à l'islam par la musique. Elle aimait la musique.
C'est une bonne porte d'entrée, je dirais plutôt.
Oui, la psalmodie du Coran. D'ailleurs, elle s'est choisie comme prénom Mariam, du nom de la sourate
Maria... Elle était très impressionnée par la cantillation de la sourate par Om
Kalsum. Précisément, elle a été hospitalisée plus d'une fois, mais ce serait à mon avis une erreur d'expliquer ces changements par ces problèmes de santé, puisque elle a continué jusqu'au bout son périple. Elle est arrivée à Lahore, elle s'est installée à Lahore, elle a créé.
Elle s'est mariée, elle a créé une
famille.
Elle est encore en vie.
Elle était encore en vie il y a quelques années, et puis ses archives sont des archives ouvertes. On peut les consulter.
Sur Internet. Il y a même un site la concernant.
Absolument,
oui.
Il y a un site la concernant.
Mais alors, j'ai découvert un texte d'elle que vous ne citez pas dans votre livre, tardif, où elle se permet de critiquer son maître, Maududi, en disant la gravité, finalement, de cette théorie, de cette lecture radicale du Coran, parce qu'elle conduit à la désertification du monde et, en fait, à annuler tout ce que l'islam a pu apporter comme civilisation dans sa propre tradition. Oui. Il est heureux qu'elle soit parvenue à un tel jugement sur le tard.
Oui, ça c'est ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans les échanges entre Maududi et Jamila, c'est leur attitude à l'égard d'un autre juif converti à l'islam, c'est Mohamed Assad.
Justement, j'allais arriver, le fameux Léopold Weiss qui est né à Lvov, comment on prononce Lvov ?
Lvov.
Lvov. En Pologne en 1900 et qui est devenu donc Mohamed Assad, qui avait parcouru l'Afrique, l'Asie entre 1922 et 1925 en tant que correspondant du célèbre Frankfurter Zeitung.
Oui. Et puis lui, Mohamed Assad, a appris l'arabe, mais plus que cela, il a...
Livre d'ailleurs est traduit en français, je crois.
Oui, et il a même rédigé une traduction en anglais du Coran, et les spécialistes considèrent cette traduction comme un texte magnifique. Il a joué un rôle politique de premier plan pour son pays d'adoption, le Pakistan, et il est mort il y a quelques années à peine, pratiquement dans l'oubli. Pourquoi ? Parce que Mohamed Assad a maintenu jusqu'au bout l'islam des lumières, on peut dire l'islam de la beauté, l'islam de Abdou,
l'islam de qui a la portée esthétique, parce qu'il aimait beaucoup la mystique,
beaucoup.
Tout ça aussi.
Et Maududi a des mots très durs à son encontre, et comme vous vous souvenez, il l'a insulté en le traitant d'un juif réformiste de l'islam.
Et il y a aussi des problèmes politiques pakistano-pakistanais aussi dans cette affaire, peut-être aussi, non ?
Oui, parce que il y a eu des changements de pouvoir, et
il a mené une guerre politique contre la prétention aux politiques des intégristes aussi,
en tant que
quelqu'un appartenant à une autre tendance.
Et il a perdu son poste à l'ONU. Il était le représentant du Pakistan pendant des années, et il a terminé ses jours au Maroc.
Il a écrit deux livres qui sont traduits en français, l'islam à la croisée des chemins et la voie de la Mecque, je crois.
La voie de la Mecque, et ces deux livres sont excellents, et il apporte vraiment des explications très 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 intéressantes et très rationnelles. Il s'inscrit dans cette dans la vision philosophique de l'islam, philosophique et juridique de l'islam, qui a attiré tant d'orientalistes et tant de penseurs juifs à travers l'histoire.
Évidemment, on ne peut pas dire que les deux phénomènes, l'intégrisme juif et l'intégrisme musulman, sont soit homothétiques ou symétriques. Vous-même, vous le rappelez dans votre livre, et j'adhère à cette appréciation. il se trouve que le message intégriste islamique a eu une retombée beaucoup plus forte dans le sens commun musulman.
Oui,
parce que ce que j'ai appelé, ce qui m'est arrivé d'appeler l'islamisme ou l'intégrisme diffus, qui est beaucoup plus redoutable au phénomène militant, qui est un phénomène totalement circonscrit et destiné à échouer. Alors, comment faire, évidemment, là, toutes les opérations qu'il y a à conduire et à mener pour essayer d'extirper cette retombée dans le sens commun musulman du message islamique.
Alors là, c'est islamiste. Comme vous venez de le signaler, c'est vraiment la grosse différence avec l'intégrisme juif. L'intégrisme juif, dès le départ, s'est intéressé à un sujet et à un seul. La Palestine, les frontières bibliques de la Palestine. Les intégristes juifs, plus ou moins, étaient indifférents à l'état de la religion de la société israélienne. Alors que les intégristes musulmans, eux, s'intéressent, voudraient l'islamisation de la société.
Imposer l'orthopraxie.
Faire de l'orthopraxie pratiquement le
critère du contrôle de la société.
Alors, et là, d'abord, nous voyons cette différence énorme. Et je pense personnellement que...
Et simplifier l'édifice théologique, oui, qui, par essence, ne peut être que complexe.
Et tant que dans le monde arabo-musulman, il n'y aura pas des alternatives, même théologiques et religieuses, au discours intégriste, ce discours-là restera prédominant. Dont en Israël, dans le monde juif, le problème ne se pose pas avec cette même vigueur, pour une raison bien simple, que d'abord le monde juif est plus diversifié sur le plan de la pratique religieuse, et encore une fois, peut-être leur faiblesse de ces intégristes, c'est de ne s'être intéressé qu'à un seul sujet. Et ce même sujet, à savoir les frontières de l'État juif ou de la Palestine, on peut dire qu'ils intéressent peut-être la population israélienne, mais une bonne partie des juifs de diaspora sont indifférents à ce sujet. C'est un sujet qui reste malgré tout marginal quant à l'existence juive, quant à la foi, à la foi juive. Et cette différence d'approche explique peut-être la difficulté qu'il y a aujourd'hui à affronter l'intégrisme musulman dans le monde arabo-musulman, alors que en Israël, dans le monde juif, j'ai l'impression que cet objectif est facilement réalisable, à savoir l'affaiblissement ou l'atténuation de leur emprise politique et même religieuse sur la société.
Il y a un combat à mener en islam et certains le mènent. Michel Abitbol, une autre question à propos de la présence des Arabes palestiniens à l'intérieur même d'Israël cette fois. Comment circule l'image de l'un par rapport à l'autre? Vous parlez longuement aussi de votre livre, de cet aspect, et les choses ont très étonnamment évolué là aussi.
Oui.
Et en termes de statistiques, et en termes de représentation de l'imaginaire que vous captez parfois à travers la littérature.
Absolument. Et les choses ont beaucoup évolué. D'abord, en ce sens que en 67, certains avaient cru qu'il allait avoir une sorte de palestinisation des Arabes israéliens et que ces Arabes israéliens feraient davantage partie, disons, de la nation palestinienne et deviendraient par la force des choses plus hostiles à l'État d'Israël. Aujourd'hui, à la longue, 20 ans ou 30 ans ou même 40 ans après 67, on a l'impression que les Arabes israéliens, en fait, subissent un double phénomène. D'un côté, une palestinisation. Ils se sentent palestiniens, ils se sentent très proches de leurs frères de Gaza, de Ramallah et d'ailleurs. Mais dans le même temps, ils sont israéliens. Ils se sentent aussi israéliens, au moins sur le plan de leur culture politique démocratique. Et d'une certaine manière, les Arabes israéliens, aujourd'hui, forment une sorte de synthèse entre ces deux populations, une sorte de trait d'union. Et c'est pourquoi le phénomène d'israélisation des Arabes israéliens ne s'est pas arrêté. Il s'est poursuivi aussi bien sur le plan social que sur le plan économique. Et nous avons donc, aujourd'hui, nous assistons à la naissance d'une sorte de troisième société dans cet espace, à que de la société israélienne juive, la société palestinienne arabe ou chrétienne, et la société, appelons-la israélo-palestinienne, qui est constitué par les Arabes israéliens.
Un des critères de l'évolution d'un groupe social, c'est le niveau de son instruction, et là vous montrez que l'accès à l'université est massif auprès d'Arabes, des Arabes israéliens.
Oui, des Arabes israéliens, et il ne faut pas oublier non plus les réussites exceptionnelles des Arabes palestiniens par rapport aux pays environnants. C'est-à-dire que les Palestiniens, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, ou vivant dans les territoires de Cisjordanie et à Gaza, constituent aujourd'hui, d'une certaine manière, l'élite intellectuelle des pays du Proche-Orient.
Et quelqu'un comme Azmi Bichara est représentatif, il peut représenter, est une voix politique pouvant représenter les Arabes israéliens.
Je ne sais pas, parce que je ne sais pas dans quelle mesure il les présente.
Et, il s'exprime en tous les cas.
Bien sûr, il s'exprime, mais
il parle beaucoup d'ailleurs aussi dans les médias arabes. Oui. Les médias arabes, du reste, Al-Jazeera, par exemple, a un correspondant en Israël. Oui. Très souvent, beaucoup d'experts israéliens interviennent sur un certain nombre de points.
Et le cas de Azmi Bichara est assez exceptionnel, d'ailleurs, parce que d'une part, il se définit aussi bien comme israélien que comme palestinien. Et comme d'ailleurs Ahmed Tibi, docteur Ahmed Tibi, qui pendant des années était le conseiller d'Arafat. Et il existe cette élite qui est assez nombreuse. On en connaît les figures emblématiques sur le plan politique, mais moi-même j'en ai rencontré parmi les enseignants, parmi mes propres étudiants, et pour lesquels l'identité israélienne est aussi une valeur. Et il y a aujourd'hui dans cette société israélienne des Israéliens arabes, des Israéliens russes non juifs, des Israéliens éthiopiens non juifs. Donc on est en train de créer autre chose que cette société israélienne monolithique que ses fondateurs avaient rêvé.
Michel Abitbol, rien dans votre livre Les Amnésiques, Juifs et Arabes à l'ombre du conflit du Proche-Orient, rien pour procéder, aucune recette ou aucune direction, aucune perspective qui procéderait lorsqu'on est face à l'amnésie. Les psychanalystes parlent d'anamnèse. Rien dans votre livre. Hors du livre, pensez-vous qu'il y a les rouages possibles, l'énergie possible à ranimer pour lever l'oubli, pour procéder à l'anamnèse, face à ces amnésiques de part et d'autre?
Comme je vous le disais au début de notre rencontre, on ne peut pas effacer 1500 ans ou 2000 ans d'histoire, malgré tous les efforts de tous les intégrismes. Siècles d'histoire commune entre juifs et arabes font partie intrinsèque de la civilisation juive sûrement, et d'une certaine manière aussi de l'histoire arabe, et personne ne pourrait les effacer. Je pense et j'espère que les problèmes actuels sont des problèmes assez circonscrit dans le temps, et que finalement, lorsque les conditions politiques seront meilleures, on retrouvera cette histoire d'antan. Je voudrais juste rappeler à ce sujet que à l'époque coloniale et pendant les années 60, l'écriture musulmane sur le christianisme, l'écriture musulmane contre les chrétiens, était certainement aussi vive que l'écriture musulmane ou l'écriture intégriste sur les juifs et vice-versa. Depuis la décolonisation, il y a eu pacification des relations entre musulmans et chrétiens, et j'espère que, pour ma part, que c'est ce qui arrivera plus tard, quand cet abcès du Proche-Orient sera résorbé. On aura peut-être l'occasion d'assister à l'éclosion d'un autre discours, à l'éclosion d'une autre réflexion sur le judaïsme et l'islam, et sur l'expérience passée de ces deux religions, et peut-être que le judaïsme pourrait apprendre à l'islam de son expérience, et l'inverse aussi sera vrai pour le troisième millénaire.
Michel Abitbol, une toute dernière question. Vous êtes d'origine marocaine, le judaïsme marocain est ancestral, au moins deux fois millénaire. Maintenant, le Maroc est déserté de ses juifs. Est-ce que vous pensez que viendra un temps où il y aura, je ne dirais pas retour des juifs à leur patrie marocaine, mais réanimation en tous les cas de l'esprit du judaïsme dans le cadre, je veux dire, de la nation marocaine?
Oui, je pense que un bon historien marocain ne pourrait pas mettre entre parenthèses la participation des juifs à l'histoire du Maroc, tout comme
même le judaïsme, même l'histoire du judaïsme tout court.
Hein. Tout court, absolument, dans cette histoire, tout comme un bon historien juif des juifs du Maroc ne pourrait pas oublier l'apport du Maroc à cette histoire juive. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a désertification, mais vous savez, des dizaines de milliers d'originaires du Maroc visitent chaque année le Maroc, et il y en a autant d'ailleurs qui vont en Tunisie, et de cette manière, l'histoire, je dirais pas que l'histoire continue, mais
une certaine mémoire est entretenue
d'un côté comme de l'autre.
Merci beaucoup Michel Abitbol, auteur donc de ce dernier livre que vous avez écrit, paru aux éditions Perrin, Les Amnésiques, Juifs et Arabes à l'ombre du conflit du Proche-Orient. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Medeb, technique Marie-Dominique Bougot, réalisation François Connac. Merci à eux deux.